Vers les îles Noires du Pacifique, de Port-Joinville à Port-Sandwich, une mission nouvelle hybride 1890-1893. C'est le livre de Jean-Paul Léger paru aux éditions Étrave. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour.
Ce livre est sorti l'année dernière au mois d'août.
Alors c'est ça, le livre est sorti au mois d'août l'année dernière. Je ne pensais pas qu'il serait sorti aussi vite et j'ai été pris un petit peu au dépourvu l'année dernière. Mais enfin voilà, donc ça fait maintenant un an qu'il est sorti.
Un beau succès pour ce livre ?
Oh, un beau succès, bon, ça va, moi je suis plutôt content, quoi, parce que ça permet d'être invité de temps en temps à des salons, et puis il y a des surprises, parfois de bonnes surprises, comme tout dernièrement au salon d'Arcachon, où c'est Jean-Louis Debray qui avait découvert le livre et qui l'a présenté, donc évidemment c'était intéressant pour moi.
Comment il a découvert ce livre ?
Il a découvert ce livre, je ne sais pas vraiment, parce que je ne lui ai pas vraiment posé la question. Peut-être qu'il faisait partie du jury de sélection, parce que le jury, c'était un jury qui se passait dans les locaux de l'Express à Paris. Alors, je ne sais pas s'il était membre du jury ou pas, je ne vais pas poser la question.
Il connaissait déjà l'histoire ou pas du tout ?
Ah non, pas du tout.
Non, pas du tout. Il l'avait vraiment découvert.
Ah, il l'a découvert, tout à fait, oui. Comme beaucoup de gens, cette histoire a intrigué.
Intrigué,
parce que j'évoque là une période vraiment méconnue de notre histoire coloniale, quoi. Mais si j'y suis arrivé, c'est pas forcément par choix d'évoquer ce thème, c'est un petit peu par hasard, enfin, on en parlera.
C'est un petit peu l'histoire de votre vie et surtout l'histoire de votre arrière-grand-père, non ?
Alors, de ma vie, pas vraiment, bien que moi aussi, j'ai navigué dans ces îles-là.
C'est pour ça que je dis de votre vie.
Oui, c'est assez curieux, parce que quand j'ai réussi à trouver les journaux de bord du bateau, que j'ai répertorié un petit peu toutes les îles où l'arrière-grand-père était passé, je me suis aperçu que moi aussi, j'étais allé là-bas, dans les mêmes coins. Donc, c'était quand même assez émouvant, quoi. Par contre, effectivement, c'est inspiré de mon arrière-grand-père, mais je précise bien que ce n'est pas son histoire. Mon arrière-grand-père s'appelait Pierre Chalot. Et le héros, entre guillemets, du livre, personnage principal, c'est Emmanuel Sholto. Ceci dit, il est né lui aussi au Kerjigou, a vécu au Kerborny. Il a navigué sur les mêmes navires, Emmanuel, sur les mêmes navires que Pierre. Et en fait, je me suis inspiré de ça, mais surtout de faits réels, des choses qui se sont réellement passées et auxquelles l'arrière-grand-père a participé.
On a bien compris, c'est un roman, mais qui s'inspire d'histoires vécues.
Tout à fait. D'ailleurs, à la fin du livre, j'ai mis des annexes, donc tous les faits réels qui m'ont servi d'inspiration. Et puis, évoquer le cannibalisme, le rôle de la marine à cette époque-là.
Quel était le rôle de la marine à cette époque-là ?
Alors, en fait, ces îles étaient revendiquées plus ou moins par la France et l'Angleterre, mais aucune en fait le territoire ne dépendait ni de l'Angleterre ni de la France, mais il a été créé une commission navale mixte qui avait pour mission principale de protéger les colons des exactions des indigènes. Alors, lesquels colons n'étaient pas toujours des gens très fréquentables. Et puis c'est vrai que les indigènes avaient des mœurs un petit peu redoutables, quoi.
Dont le cannibalisme, dont tu me parlais à l'instant.
Ben oui, bien sûr. Et ça, parce que,
je pense que c'est ce qui a interpellé le plus de personnes, non ? Dans ce livre,
Le cannibalisme, oui, bien que, on en parle quand même. Et ça, c'est évoqué dans les archives, parce que je me suis quand même inspiré des archives de la Défense. Pendant plus de 10 ans, j'ai cherché les archives de la Défense et archives des missionnaires aussi.
Tu as travaillé sur ce livre pendant 10 ans ?
J'ai recherché pendant 10 ans. Et c'est après, parce qu'au départ, moi je voulais savoir ce qu'avait fait, où était allé l'arrière-grand-père. Parce que, pour revenir un petit peu en arrière, cet arrière-grand-père...
Arrière-grand-père, tu as raconté ses histoires.
Oui,
mais tu ne comprenais pas tout, parce que tu étais jeune.
J'avais 7 ans quand il est mort, mais par contre, il y a des mots qui restent dans les oreilles. Cannibale.
Cannibalisme.
Et puis fusil dans la jungle. Et mon oncle, qui s'appelait Auguste Viau, m'a dit, mais oui, il racontait ça, qu'il était dans la jungle, son fusil, que même il y a un petit cochon qui est venu renifler le bout de son canon. Alors tout ça, ça m'a quand même intrigué. Ce qui m'a le plus intrigué, c'est quand moi je suis parti naviguer à Nouméa, Nouvelle-Zébride, sur un navire océanographique.
C'était quand ?
C'était en 1977. Près de 90 ans après que le
monde
avait, père soit
on
passé.
Peut dire le monde avait changé.
Le monde avait changé, oui, mais dans certaines de ces îles, Y a des choses qui étaient un petit peu restées. Bon, pas le cannibalisme, bien sûr, hein, mais j'évoque des maladies dont parfois sont morts les marins de ce bateau.
Quelles maladies ?
Alors, le paludisme, donc il y avait beaucoup. Les dysenteries, et moi-même je suis resté une semaine hospitalisé justement à Port-Vila à cause d'une dysenterie amibienne, enfin bon, on n'a pas trop su, mais bon, c'est des pays où on se chope encore pas mal de choses, quoi. Et voilà, donc tout ce périple, en fait, moi, ce qui m'a quand même beaucoup ému, c'est de savoir que cet aïeul était parti là-bas, et dans les conditions de service militaire, c'est-à-dire que c'est un aventurier malgré lui, parce qu'il n'a pas choisi de partir là-bas.
C'était une obligation.
C'était une obligation. Bah, c'est-à-dire qu'il était incorporé dans la marine, et on imagine, maintenant on parle d'un service militaire d'un mois, là c'était 4 ans, et 4 ans sans revenir, et sans pas beaucoup de courriers, bien entendu. Et puis les gens, les familles, il faut bien le dire, ne savaient ni lire ni écrire. Sauf que dans la marine, on leur apprenait. C'est-à-dire qu'on leur apprenait à lire et à écrire. Tous les jours, il y avait, on voit bien dans les journaux de bord, hein, école élémentaire pour les tribordés, école élémentaire pour les bâbordés. Et donc, la marine souhaitait qu'ils partent, qu'ils repartent chez eux en s'allant, au moins, en sachant lire, écrire et compter.
Il a navigué durant 3 ans.
Alors, son service militaire a duré au total près de 4 ans, mais plus de 3 ans là-bas dans le Pacifique, oui.
Le but de cette mission, c'est de faire régner l'ordre sur ce territoire volcanique.
Voilà, c'est ça. En fait, alors il n'y avait pas sur place des autorités, et en 1887, il a été décidé de créer cette commission navale mixte, dont le commandement était assuré à la fois, enfin alternativement, par un commandant anglais et un commandant français. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils avaient droit de vie et de mort sur les indigènes qu'ils avaient attrapés au cours d'opérations diverses.
Les tensions, forcément, étaient grandes.
Alors, les tensions étaient grandes parce que... Alors, il y avait des tensions entre les missionnaires. Mmh. Missionnaires catholiques et missionnaires anglicans presbytériens. Alors ça m'a beaucoup surpris dans les archives. Hein. J'ai même cité dans les index des choses assez incroyables. Il y avait des tensions, bien entendu, entre les indigènes et les colons. Dans les colons, il n'y avait pas que des mauvais bougres, hein. Il y avait beaucoup de copra-makers. Les copra-makers, c'est des gens qui partaient faire cultiver les noix de coco, enfin récolter le copra. Et puis, mais il y avait aussi des recruteurs. Les recruteurs, c'était des navires qui allaient prélever, qui allaient recruter des indigènes, donc surtout des hommes, dans les îles, dans les villages, pour les envoyer travailler dans les mines en Australie ou dans les plantations de Nouvelle-Calédonie.
Et ces indigènes ne voulaient pas partir, ils voulaient rester chez eux.
Alors, ils voulaient rester chez eux, mais on leur faisait miroiter beaucoup de choses, de la richesse, de revenir au pays. Et souvent, la plupart du temps, d'après ce que j'ai vu moi dans les archives, c'est que peu d'entre eux revenaient au pays à cause des mauvais traitements et d'une maladie diverse. Parce qu'ils attrapaient beaucoup de nos maladies, en fait.
Ils décédaient, quoi.
Il décédait, il revenait pas.
Et c'est pour ça que ça créait des tensions, non ?
Et ça créait des tensions, bien entendu. Et puis bon, il y avait aussi des tensions entre anglais et français. C'était pas non plus l'entente cordiale, quand même, hein, malgré cette coopération qu'il y avait entre les deux marines. Mais on sent bien que parfois il y avait quand même.
Quel type de tension ? Entre les hommes ? Ou entre la direction,
non,
ou les deux d'ailleurs.
Non, c'est plus des conflits d'intérêts aussi, parce que la marine britannique favorisait plutôt l'implantation de, par exemple, de missionnaires britanniques. Donc cette tension, et puis surtout, pour un marin, les marins qui arrivaient là-bas, c'était quand même assez surprenant. On imagine un jeune marin de l'Île-Dieu, à la fin du 19e, qui n'est pas forcément allé à l'école, qui n'a pas appris grand-chose, même sur la géographie, qui arrive là-bas, dans un pays méconnu.
Complètement méconnu, oui.
Complètement méconnu. C'est comme si maintenant on débarquait sur Mars. C'est-à-dire qu'il rencontre des indigènes aux mœurs quand même un peu rudes.
Cannibalisme, entre autres, on l'appelle.
Et entre autres. Et non seulement ça, c'est qu'ils étaient quand même assez agressifs. Mais on peut le comprendre aussi pour certaines raisons.
C'est ce que j'allais vous dire, oui.
Et on leur demandait de leur courir après. Et enfin, moi, ce qui m'a surpris dans les archives, dans les journaux de bord et tout ça, c'est la brutalité quand même des répressions faites à l'encontre des indigènes. C'était quand même brutal. Alors ça, évidemment, dans le livre, je le décris, mais c'est pas bon. Bien sûr, c'est romancé, mais c'est pas inventé dans la mesure où j'ai trouvé ça dans les journaux de bord et dans les rapports particuliers.
En cette période, le territoire du Pacifique était important pour la France ou pour les Anglais ?
On pensait qu'il y avait pas mal de possibilités. C'est un pays très fertile. Mais les conditions de vie sanitaires étaient tellement dures. Il y a un missionnaire qui disait, ici aux Nouvelles-Hébrides, une année en vaut deux. Hein, tellement c'était dur. Il faut bien dire que les missionnaires, je parle des missionnaires catholiques parce que je n'ai pas trop étudié, il y a plus de la moitié d'entre eux, en moins d'un siècle, qui sont morts là-bas. De morts brutales.
Tu fais du climat, non ? Ou des indigènes plutôt ?
Non, un peu, oui, mais surtout des maladies.
Des maladies ?
Surtout des maladies. Et j'avais lu un rapport, un médecin qui disait à l'évêque de Nouméa, si vous voulez maintenir en vie vos missionnaires, faites-les percher. C'est-à-dire qu'en fait, il recommandait qu'ils fassent des cases sur pilotis, parce qu'ils attrapaient des tas de maladies.
Combien de missionnaires français sont partis ?
Alors, j'aurai à peu près 100, 200, à peu près dans une époque, en moins d'un siècle à peu près. Mm-hmm. Hein. C'était des missionnaires maristes de Lyon. Mais j'ai vu que parmi eux, il y avait des Vendéens. Il y avait quelques Vendéens. C'était quand même si moi je suis parti avec un a priori un petit peu négatif sur leur action, j'ai découvert au fur et à mesure de ce que m'ont envoyé les missionnaires de Vanuatu, parce qu'ils ont été très sympas, ils m'ont envoyé des archives originales. Je fais une petite parenthèse, mais là, toutes les archives sur lesquelles j'ai travaillé, ce ne sont pas des archives numérisées, hein, donc aussi bien de la marine, de la défense que des missionnaires. Et j'ai trouvé que c'était quand même de sacrés bons hommes. C'était des personnages, c'était des aventuriers. Et on voit bien qu'au bout d'un moment, leur mission évangélique diminue un petit peu. Et disons qu'ils avaient surtout une mission humanitaire aussi. Hein, donc ils étaient quand même des gens très dévoués et courageux, faut bien le dire. Mais leur action a eu quand même quelques effets négatifs, en voulant par exemple imposer des vêtements aux indigènes.
Mmh. Humanitaire, ces missionnaires étaient là pour aider ces indigènes.
Ils étaient là pour évangéliser, c'était leur mission principale, quoi. Et c'est vrai que moi j'ai retrouvé aussi dans leur papier, parfois certains qui se posaient quelques questions et
ces missionnaires, ils se posaient des questions. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, non ?
C'est-à-dire qu'en fait, moi je me souviens qu'il y en avait un qui écrivait, j'ai retrouvé le courrier, il écrivait à son évêque de Nouméa en disant, écoutez, est-ce qu'on n'est pas un petit peu dur,
qu'est-ce qu'on fait dans cette galette,
pas un petit peu sévère, parce que regardez, dans les villages catholiques, on leur a posé, on a empêché qu'ils continuent un petit peu leur tradition, les gens sont tristes, alors que dans le village païen d'à côté, les gens sont gays, ils font la fête. Et il y avait, que j'ai lu aussi la réponse de l'évêque de Nouméa, qui disait, c'est du style scrogneux, les consignes de Rome sont comme ça, et puis point. Voilà. Donc, certains, c'est vrai, se posaient quelques questions. Mais je pense que leur action a quand même été bénéfique, notamment sur le plan du cannibalisme, parce que c'est quand même eux qui ont arrêté le cannibalisme.
Sacrée histoire tout de même.
Alors, c'est une sacrée histoire, et ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, cette histoire un petit peu méconnue, cette action à la fois de la France, de l'Angleterre, parce qu'il faut savoir ce que ça a précédé, un régime de Nouvelles-Hébrides qui était le condominium franco-britannique. C'est-à-dire que ce pays a été géré après par deux administrations, deux pays.
C'était bien géré ou pas ?
Je pense pas qu'on puisse bien gérer un pays comme ça avec deux administrations différentes.
C'est pour ça que je te posais la question.
Je suis passé là-bas à l'époque justement du condominium, quoi. Donc, il y avait un juge anglais, il y avait un juge français, on se demande comment ça peut marcher. Puis en plus, c'est un pays qui est difficile à administrer, à savoir que c'est quand même une quarantaine d'îles qui sont réparties du 13e au 20e parallèle sud, ce qui fait grosso modo, un petit peu la distance entre l'Afrique du Nord et la France, quoi, hein, et des îles très éparpillées. Donc
en t'écoutant parler, c'était pas gérable.
C'est difficilement. Mais même maintenant, le Vanuatu, c'est pas un pays qui, malheureusement, marche trop trop bien. Bon, peut-être plein de raisons, je ne sais pas.
En 2018, comment vivent ces gens ?
Est-ce
que t'as des nouvelles ?
J'ai des nouvelles, oui, parce que Je suis, comme j'étais en contact avec ces, alors pas missionnaires, enfin les clergés du Vanuatu, et j'étais aussi en contact avec l'Alliance française du Vanuatu. Et bon, ben, je crois quand même que ben, c'est un pays qui n'a pas non plus trop de ressources. Ben, des ressources agricoles, oui, mais c'est, bon, ben, c'est un petit peu, les gens vivent un peu en autonomie, aussi bien pour la pêche. Donc, il n'y a pas vraiment de production. Il y a des licences de pêche qui sont accordées à certains pays. Et puis maintenant, il y a un peu de tourisme, parce qu'il y a des paquebots qui font des
arrêts.
Des arrêts. Mais enfin, bon, je ne pense pas que ça apporte grand-chose au pays, quoi.
Donc, cette mission n'a pas servi à grand-chose. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça?
Alors, ça serait intéressant
pour
parce
votre
que
grand-père, hein.
Dans le livre, Emmanuel, hein, donc c'est pas pire, mais Emmanuel, bah, il se pose des questions quand il repart.
Mm-hmm.
Donc voilà, il s'est dit.
Quelles questions?
Eh ben, ces questions. Qu'est-ce que, après tout, qu'est-ce que notre mission a apporté de plus, quoi? Qu'est-ce que ça a apporté de plus à ce pays? Parce que, en fait, au moment où il est parti. Il y a eu encore des nouvelles répressions, même ça a continué, hein. J'ai vu au début du XXe siècle, il y a même eu des marins qui ont tué des indigènes, bon, ça on n'en parle pas trop, mais lors d'opérations, et donc quand il part, bah, c'est un peu en pleine effervescence, il dit, bah, qu'est-ce que c'est que...
À quoi ça servit Qu'est-ce qu'on est venu faire là
Qu'est-ce qu'on a fait là? Bon, bah, il se pose des questions, ceci dit... Comme toute action, rien n'est entièrement positif, rien n'est entièrement négatif.
Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir.
Mais c'est vrai que c'est une... Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, par exemple, sur cette période de l'histoire, j'ai contacté des historiens, hein, de la marine, notamment, à l'école navale, où je cherchais des mémoires de thèse sur la commission navale du Pacifique, par exemple. J'ai trouvé très, très peu de choses. Qui fait que, là j'étais surpris par exemple, là on me demande, c'est à la Corderie Royale à Rochefort, de faire un exposé, une conférence, pas sur le roman lui-même, mais sur le thème.
Mm-hmm.
Parce que, ben, a priori, il n'y a pas grand-chose.
C'est une histoire, on peut dire, méconnue.
Ah ben c'est méconnu, c'est méconnu, parce que même quand on parle autour de soi de la commission navale mixte, division navale du Pacifique à l'époque, on ne sait pas trop, quoi.
Emmanuel Sholto est revenu sur les lieux ensuite,
alors Emmanuel est revenu.
Mmh.
Bon, alors bien entendu, Emmanuel est revenu. Alors, il y a aussi quelques intrigues. Il a bien fallu que je mette quand même des personnages, mais tout en restant crédible.
Mmh. Hein, dans l'histoire.
Dans l'histoire. Et bah, des petites des aventures sentimentales aussi. Bon, des choses.
Oui, on rappelle que c'est un roman tout de même.
Et c'est un roman, bien entendu. Mais bon, c'est vrai qu'un jeune marin qui partait 3 ans, 4 ans dans des contrées un peu... voilà,
c'est... Complètement exotiques, on peut dire ça comme ça, oui.
Oui, puis dans des conditions dures. Parce que la vie sur les bateaux, c'est quand même dur. Il y a la discipline.
Mmh.
Il y a le...
Oui, c'était militaire, on rappelle. Oui.
Oui, puis le côté sanitaire aussi, qui est quand même... on voit... D'ailleurs, c'est assez... On voit quand on feuillette les journaux de bord, parce que ça, c'est vraiment une grande émotion de feuilleter des journaux de bord, notamment du navire où était l'arrière-grand-père, et de voir un petit peu ce
qu'il a vécu. La Saône, c'est bien ça?
La Saône, oui. Mmh. Bah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est la Viso, la Saône, effectivement. Et on voit de temps en temps, on voit RIP, et puis bah, on voit décès d'un marin. Alors, souvent, par maladie ou accident. Maladie ou accident, il y avait quand même pas mal de...
Quel type d'accident?
Le canon qui explose, par exemple, ou tout simplement un accident lors d'une opération à terre, pas forcément tué par les indigènes. Puis tous les accidents qu'il peut y avoir sur les navires. Hein.
Mm-hmm.
Bon, le gars qui tombe de la mâture, des choses comme ça. Mais surtout des maladies.
Surtout des maladies,
surtout
on l'a compris.
Mmh. Ouais, ouais.
Emmanuel Sholto, quand il revenait à Île-Dieu, il racontait ses histoires de ce qu'il a vécu ou il gardait pour lui?
Alors, Emmanuel Sholto, je ne sais pas, Pierre Chalot a raconté, oui, il racontait des histoires.
Mmh.
Il racontait beaucoup et j'entendais dire, mais moi j'étais trop petit pour
comprendre
savoir intégralement ce qu'il racontait. Mais dans la famille, bien sûr, on disait, mais le grand-père, c'est un conteur, il raconte beaucoup de choses. Maintenant,
mais c'est une histoire vraie. Des
ah ben ouais. Oui, il racontait ses aventures. Bon, ben, dont l'histoire, il était bien hein, dans la jungle. Parce que sur ces bateaux, quand ils envoyaient une mission, que vous soyez, parce que le grand-père était gabier, hein, Mais que vous soyez gabier, fourrier, n'importe quelle spécialité, les compagnies de débarquement étaient composées non pas de uniquement de fusiliers marins, comme ça peut l'être maintenant. Il y avait toutes les spécialités qui partaient. Et donc, les gens étaient quand même... Ils savaient servir des fusils, ils savaient se... Donc, il racontait tout ça. Mais je me dis, quelle écoute il pouvait avoir. Parce que, aller dire, et d'ailleurs certaines personnes m'ont dit, oui, il est parti dans les colonies. Ben oui, mais colonies où? Donc c'est pas évident.
Les gens ne comprenaient pas.
C'est-à-dire que je pense qu'il est aussi... je veux dire, ce qu'il racontait était tellement différent du quotidien que vivaient les gens, qu'on peut avoir du mal à croire, même, à croire ce que les gens racontaient. Mais même, vous voyez...
Les idées se disaient... Ce personnage est fou, il raconte n'importe quoi, non?
Peut-être pas, peut-être pas, mais oh, allez, il exagère un petit peu. Bon, peut-être qu'il pouvait enlever.
Il amplifie la situation.
Peut-être
quoi.
Mais de toute manière, il y a des choses qui ne trompent pas. Hein, c'est les journaux de bord, les rapports d'opération. Donc, bon, ben, on sait que. Moi, par exemple, ma mère me disait, il est allé aussi au Chili. Il racontait qu'il est allé au Chili. Et moi, je me dis, mais il est allé au Chili comment? Peut-être en naviguant sur les Cap Horniers, qu'il allait chercher les nitrates au Chili. Mais quand j'ai repris les journaux de son relevé de navigation, il n'y avait pas ça du tout. Mais j'ai compris après. Donc, il est bien allé au Chili. Alors, en lisant le bouquin, on comprend pourquoi il est allé au Chili.
Emmanuel Scholteux, quand il est parti pour cette mission, il avait quel âge?
S'ils avaient 20 ans. Hein.
Ils avaient
20 ans,
ouais,
ils 21
ans. Très jeunes, tout de même.
Bien sûr. Mais bon, c'est des gars qui partaient... Il avait, oui, parce qu'il est parti, il a été incorporé à Rochefort, il avait 20 ans, et il est revenu, il avait 24-25 ans.
Et on peut dire que ça change un homme.
Ah ben, bien sûr. Ah ben oui, ça change un homme. Ça change un homme. Bon, ben, on peut dire la même chose pour les gens qui sont partis à la guerre.
Hein. C'est ce que j'allais dire, oui.
Voilà. C'est ça. Mais alors, ce qui est quand même assez rigolo, quand on reprend à l'époque, à la fin du 19e, il a été incorporé à Rochefort. Il a fait tout son périple. Alors, il est parti, on voit, il est parti en paquebot des messageries maritimes, retrouver le bateau qui est revenu, et il a fait un tour du monde complet de Rochefort à Rochefort. Et en plus de 3 ans, bien sûr, mais il avait fait son tour du monde, quoi. C'est assez incroyable.
Jean-Paul Léger, avant de te dire au revoir, peux-tu nous lire un extrait du livre?
Alors.
Et nous remettre l'extrait dans le contexte.
Oui, alors bon, dans ce livre, alors il a fallu, je parlais des archives tout à l'heure, il a fallu aussi que je décrive la vie à l'île Dieu à la fin du 19e. Et pas forcément dans le monde maritime, mais le monde agricole, notamment. Hein. Mais je vais passer ça, je vais aller peut-être directement dans le Pacifique. Voilà, donc c'est précédant une mission. Alors cette mission qui a réellement existé, hein. Bon, mais bien sûr, là dans le roman. J'espérais que cette fois-ci je serais exempté de corvée, mais je me trompais. En fait, presque le tiers de l'équipage fut réquisitionné. Quant à l'aspirant Bord, il restait à bord. Je soupçonnais le commandant de lui préférer Romano qui ne lui ressemblait guère. Sec, distant et plus direct, il correspondait mieux au profil du chef. Le souper fut distribué à la compagnie de débarquement, puis nous entendîmes les premiers tirs qui partaient de la hune de misaine. Lucien, je mets entre parenthèses, c'est un gars de la pointe du but. Hein, bon, voilà. Servait ce canon, et j'imaginais les sentiments qui animaient en ce moment mon pauvre camarade. La végétation était si dense que les impacts n'étaient pas visibles. On n'apercevait qu'un nuage de fumée diffus qui recouvrait les abords d'Assouk. Raymond Golchen faisait partie de ma section. Son commentaire ne fit qu'accentuer nos tourments. Vous rappelez ce que nous racontait le père Vigou l'autre jour? Il voulait peut-être vous impressionner. Il disait que ces gars-là aiment la bagarre et le sang ne leur fait pas peur. À ce qu'il paraît, ils fixent des dents de requin à l'extrémité de leur sagaie pour élargir les plaies et faire saigner les chairs. Ouais, et même que parfois, le bout de leur lance est des tibias humains qu'ils ont taillés, répliqua un jeune gabier. Le goff m'a même dit qu'il plongeait les pointes dans les entrailles d'un mort ou d'une bête crevée pour qu'elle soit empoisonnée. Mais vos gueules, répliqua Abel. Ces mecs-là me foutent la trouille, rien qu'à les regarder. Voilà maintenant qu'on m'envoie dans la brousse leur courir aux fesses. Si ça se trouve, ils sont en train de nous attendre pour nous faire cuire à la broche. « Ben oui, t'es donc au courant, lui répondit Raymond. Soit disant que dans le restaurant d'Assou, qui aurait marqué au menu ce soir de la belle breton accompagnée de purée la plappe. N'importe quoi, dit Abel en haussant les épaules. On n'emmenait pas large, mais toute la section partit d'un grand éclat de rire et cela nous détendit. L'enseigne de vaisseau lança vers nous un regard étonné. Sans doute avait-il la trouille, lui aussi, mais un officier ne doit pas montrer ses faiblesses. Une heure plus tard, je me saisis du fusil et des cartouches que me remit un quartier-maître fourrier. Chacun reçut une gourde et sa ration de biscuits de guerre. Sur le pont, les ordres retentirent. Les baleinières et le yu-yu sont parés. Embarquez. Le soleil n'allait pas tarder à se coucher. La lente progression aux avirons laissait le temps de scruter le rivage où régnait un calme inquiétant. Tout le monde se taisait.
Jean-Paul Léger, on te retrouve à la Maison de la Presse lundi 6 août prochain.
C'est ça.
6 août pour une séance dédicace.
Une séance dédicace, je pense que ce sera la dernière pour ce livre.
Tu vas discuter avec les gens, expliquer un petit peu le livre, c'est ça, que tu viens de nous faire.
L'intérêt d'une dédicace, c'est ça, on n'est pas là pour vendre. De toute manière, quand on écrit un livre, c'est pas pour gagner de l'argent ou vendre, mais bon, ça permet des échanges avec les gens et c'est ça qui est important.
C'est le lundi 6 août prochain entre 10h et 12h30 à la Maison de la Presse.
Voilà, c'est ça.
Vers les îles noires du Pacifique, de Port-Joinville à Port-Sandwich, c'est le livre de Jean-Paul Léger à découvrir aux éditions Étrave. Merci beaucoup Jean-Paul, à très bientôt.
Mais merci de m'avoir reçu, au revoir.